I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les amis, c'est Bastos et je vous retrouve pour l'épisode 1 des podcasts Bastos Motivation. Je suis très content de commencer à enregistrer des podcasts et je trouvais ça naturel de commencer par un premier épisode sur mon parcours parce que je vous vois déjà me poser la question, Bastos, d'où tu crois que tu peux nous donner des conseils de motivation? En quoi toi, mec qui fait le pitre sur YouTube et à la télé, tu as la clé de la réussite?
Oh, ce qu'on va se mettre!
Alors d'abord, la première chose, c'est je n'ai pas la clé de la réussite. L'idée, c'est d'y réfléchir ensemble, de poser des questions, de s'interroger, de prendre du recul sur pas mal de choses, mais absolument pas de vous apprendre. Et puis bien sûr, d'inviter des gens que vous connaissez pour discuter de tout ça avec eux. Mais je vais commencer, parce que je sais bien que ça serait votre première question, par vous raconter un petit peu mon parcours. Au début, il y avait une grosse masse gazeuse. On va commencer à ma naissance parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je suis né à Mulhouse en 1988 et plus précisément le 24 mars, ce qui me donne aujourd'hui quasiment 35 ans. Et oui, le temps passe. Vraiment une enfance paisible. J'ai passé 7 ans à Mulhouse, après 7 ans en Bretagne. J'avais des bonnes notes, mais sans plus. Élève plutôt dissipé. Un petit peu comme sur YouTube aujourd'hui. Si on pouvait comparer mes pénalités et mes démonétisations à des avertissements et des heures de colle, on s'y retrouverait pas mal. Malheureusement, toujours un peu ami avec les fauteurs de troubles. Clairement, en général, ce que disaient les profs de moi, aux autres surtout, c'était ne vous approchez pas de lui, il va vous inciter à faire de la merde et lui s'en tirera à bon compte avec des bonnes notes. C'est un piège. Je me suis fait pas mal virer, j'étais pas mal dans les problèmes et il a fallu Tahiti pour me calmer. J'y ai suivi ma famille à l'âge de 15 ans qui était partie par goût d'aventure. Donc je suis parti avec mon papa, ma maman, mon petit frère et ma petite sœur. Tahiti m'a beaucoup calmé. Je sais pas pourquoi. Peut-être un état d'esprit qui me correspondait plus ou qui m'apaisait. J'étais à fond dans le sport, à fond dans la nature, dans le surf. Peut-être aussi des copains différents. Et on verra sûrement dans le prochain podcast que les gens dont vous vous entourez ont un impact hyper important sur votre vie. J'y ai passé mon bac, mon permis de conduire, et puis là, il a fallu rentrer et faire des études. Et ça, ça a été un énorme choc, parce que j'aime autant vous dire que passer de la plage, du surf, des vagues, à travailler en prépa, avec des heures de colle, énormément de travail personnel. Il y avait vraiment un fossé vertigineux entre les deux et ça a été un peu dur. Je me rappelle d'avoir appelé mes parents après deux semaines de prépa en pleurs en disant « mais c'est pas possible, je peux pas vivre ça ». Clairement, je savais pas ce que je voulais faire moi. Je savais pas ce que je voulais faire à cette époque-là. Et on avait décidé avec mes parents que prépa HEC, école de commerce, c'était la voie qui me fermerait le moins de portes. Moi, ça m'allait. D'une part parce que de toute façon je n'avais pas mieux à proposer et en plus de ça parce que j'étais très content que mes parents soient très contents. La prépa ça a été pas mal dur, j'avais un coloc qui se reconnaîtra peut-être si ma chaîne de podcast Bastos Motivation perce, à l'internat qui pour ne pas aller jusqu'aux toilettes communes au bout du couloir pissait dans notre lavabo, celui où on se brossait les dents pour ne pas perdre de temps. C'était des bails comme ça un petit peu en prépa, avec quelques forcenés. Il classait ses fiches plastiques dans son classeur à 2h du matin. Clac, clac, clac. C'était vraiment l'enfer. Je me rappelle même plus comment il s'appelait. Et du coup, la deuxième année, j'ai pu avoir une petite chambre de bonne de 9 mètres carrés pour être un petit peu plus au calme. Mais bon, j'en ai pas vraiment énormément profité puisque j'ai choisi de me tourner vers le poker pendant cette deuxième année et de passer mes nuits blanches à jouer au poker sur Winamax et sur PokerStars. Ce qui ne m'a pas empêché au bout de 2 ans d'avoir une assez bonne école au concours. J'ai eu Kedge, Cage, qui à l'époque s'appelait Euromed et situé en 7e position des grandes écoles de commerce. Donc c'était pas dégueu, c'était pas HEC et SEC ESCP, mais c'était pas dégueu, ça passait. Et puis surtout, bah, c'était l'occasion d'entendre mon papa me dire qu'il était fier de moi, et ça, ça n'a pas de prix, je m'en rappellerai toujours. J'ai donc intégré Cage, il y en a peut-être qui connaissent cette école de commerce, où j'ai pas trouvé les cours très intéressants, j'ai trouvé ça très basique, très logique. J'avais vraiment l'impression de revenir en arrière après des cours bien difficiles de géopolitique, de mathématiques, de littérature, de philosophie, de la prépa. Donc un peu décevant dans le fond, avec des petites consolations de participation en asso. J'étais au bureau des sports, j'organisais les sports extrêmes. Bon, c'était mon domaine, c'était ce que j'aimais. J'aimais bien être dans la nature. Ça s'est plutôt bien passé. J'y ai passé que 2 ans parce qu'après, je suis parti en césure. Et cette césure, elle a changé ma vie. C'est un des premiers points hyper importants auxquels j'estime devoir pas mal de choses dans la vie. Le truc, c'est que pendant toutes mes études, comme je l'ai dit avant, j'étais un peu en train d'essayer de faire plaisir à mes parents sans trop savoir qui j'étais, sans trop savoir ce que je voulais faire. Pendant mes 2 premières années d'école de commerce, je me suis dit, c'est pas ici. C'est pas ici, au milieu de ces jeunes enfants gâtés qui manquent pas mal de passion à mon goût et qui ne savent pas trop qui ils sont, que je vais trouver moi qui je suis. Et j'ai eu une idée, c'était bah, de m'affranchir complètement de toute l'aide, tout le soutien de ma famille, d'essayer de partir loin et de tout recommencer à zéro. Dans un endroit où mes diplômes ne seraient pas reconnus, personne n'en aurait rien à foutre et il n'y aurait que ma volonté, mon travail, mes aptitudes sociales qui feraient la différence. Alors, aptitudes sociales, parlons-en. Ma petite vie familiale, elle était très confortable, mais dans ma famille, on est tous très timides. Et ça, ça rendait les choses un petit peu plus compliquées. Et c'est une chose dont je voulais aussi me libérer un petit peu, cette timidité, en partant dans un endroit où je me retrouverais tout seul et où du coup j'aurais pas le choix. Et j'ai commencé à chercher des stages un peu différents de ceux qu'on me proposait parce que j'avais des bons résultats, parce que je me débrouillais bien à l'oral et qui étaient en France et qui, pour moi, étaient juste le prolongement du couloir dans lequel je m'étais un petit peu engagé. Et j'ai trouvé un petit stage à Brooklyn pour le Brooklyn Circus, une petite marque de dandy noir de Brooklyn que je suivais depuis un moment sur des blogs parce que j'aimais bien le style de vêtements. Et je les ai contactés et je leur ai demandé si il était possible que je vienne en stage. J'ai eu un peu dû me débrouiller parce que voilà, c'était dans un autre pays, c'était vraiment une toute petite structure qui n'avait jamais pris de stagiaire, en tout cas pas de cette forme-là, puisque ça fonctionne pas exactement pareil aux États-Unis. Et je me suis débrouillé pour faire accepter cette structure à mon école de commerce et partir à New York au début de l'été, après mes 2 premières années. Et ce choix-là, il a changé ma vie. Alors, c'était partir à New York dans quelques conditions qu'il faut que je souligne. La première, c'est que l'entreprise qui me prenait en stage, clairement, elle n'avait pas les moyens de me payer. Chose que j'ai décidé de cacher à mes parents parce que bon, c'était légitime de leur part. J'avais des tonnes de stages en France dans des belles boîtes et bah partir travailler pour un petit magasin de Brooklyn, sur le papier, ça semblait pas être le choix le plus évident. Donc le deal, c'était que je partais à New York, mais qu'il allait falloir que je subvienne à mes besoins. Et du coup, j'avais décidé que on verrait là-bas ce qui se passerait et on trouverait un moyen de financer ses besoins. Donc je partais un petit peu les mains dans les poches. La deuxième chose, c'est que, à part les gens de mon stage, je ne connaissais absolument personne. Donc c'était un petit peu compliqué pour rencontrer du monde, etc. Mais j'avais un gros avantage en poche, c'est que je venais de voir le film Yes Man. Je sais pas s'il y en a certains qui se rappellent de ce film, mais en gros, le synopsis, c'est un mec un petit peu dans la loose, un petit peu déprimé, se retrouve à une conférence où il y a un mec qui lui propose un système un petit peu loufoque qui consiste à dire oui à tout et qui va changer sa vie. Alors j'ai bien compris le message de ce film, une attitude un petit peu plus positive, un petit peu plus affirmative vis-à-vis des questions que la vie nous amène. Et je me suis dit que en partant dans ces conditions qui m'étaient clairement pas favorables, il allait falloir que j'adopte une stratégie et je me suis dit « Eh ben, on va tester Yes Man ». Et je suis parti comme ça, j'ai commencé mon stage très très vite, voilà, il a plus été trop question de me payer. Il a fallu que je trouve des manières d'abord de me nourrir, ça c'était le plus important. Au moins le temps que je ne gagne pas d'argent et pour l'instant, aucune source de revenus n'était prévue à l'horizon. J'avais un autre petit avantage, c'est que pendant quelques mois, certainement pas la totalité de mon stage, j'allais pouvoir rester chez une vieille dame, la marraine de mon papa. Une dame que je connaissais pas, mais qui avait un petit bureau dans lequel j'allais pouvoir dormir, histoire de retomber un peu sur mes pieds et d'essayer de trouver un logement après par la suite. Donc, je n'avais pas de loyer au début, c'était pas mal. Donc, la première problématique, ça a été de me nourrir. Et pour me nourrir, j'aurais pu certainement compter sur quelques économies que j'avais faites, puisque je bossais l'été depuis quelques années déjà, si je n'étais pas arrivé à New York en plein milieu des soldes et que je n'avais pas décidé d'aller chez Macy's et de m'acheter plein de vêtements. Je me suis donc retrouvé sans le sou et j'ai dû vivre pendant, je pense, un bon 2 mois avec 2 dollars par jour. Alors, comment on vit à New York avec 2 dollars par jour ? C'est assez marrant. D'abord, ceux qui ont déjà été à New York connaissent certainement les $1 pizza. $1 pizza, Two Bros pizza, il y en a pas mal. Mais Two Bros pizza, je crois que c'est les plus célèbres, c'est les plus répandus. C'est des petites pizzerias où on paye sa tranche de pizza à 1 dollar. En plus, c'est des grosses tranches de pizza, elles sont assez grandes, ça fait plaisir. Bon, c'est juste une margarita, hein. Mais eh ben, ça remplit le ventre, au moins le midi. Donc, ce que je faisais avec mes 2 dollars, c'est que je m'achetais 2 parts de pizza le midi. Et puis, le soir, j'avais trouvé un petit magasin qui s'appelle Food Emporium, qui est l'équivalent d'un petit Carrefour Market à New York, où ils donnaient les sandwichs invendus à la fin de la journée pour les clients et puis les gens un petit peu sans le sou. Et du coup, bah, je récupérais mon sandwich toasté, hyper bon hein, d'ailleurs en plus, parce que c'est un Carrefour Market de luxe, hein, attention. Vraiment, je me régalais. Et je réussissais à manger pour 2 dollars par jour pendant 2 mois. Et pendant ce temps-là, je travaillais tous les jours sur le lieu de mon stage à Brooklyn, hyper loin, j'avais besoin d'une heure pour y aller. Et j'essayais de survivre, quoi. Un peu compliqué. La première opportunité que j'ai eue de gagner un peu d'argent, c'est venu de Abercrombie & Fitch. C'était l'époque où Abercrombie & Fitch allait arriver en France et était hyper puissant à New York et aux États-Unis parce que c'était un peu l'endroit où les jeunes de toute la planète venaient acheter Abercrombie & Fitch et montrer dans leur pays qu'ils avaient été aux États-Unis. Ça marchait très très bien. Et j'avais été recruté à l'époque par une jolie fille qui s'appelait Michelle. Ils envoient des jolies filles pour recruter un peu des garçons un peu beaux gosses, grands, qui font un peu mannequins, parce que c'était un peu leur positionnement. Ils n'avaient pas des vendeurs, ils avaient des greeters, des gens qui étaient un peu plus là pour dire bonjour et puis faire joli que vraiment vendre quoi que ce soit. Mais du coup, j'avais été recruté pour ça. Métier que je ne pouvais bien sûr absolument pas prendre puisque j'avais un visa de stagiaire qui ne me permettait pas du tout de faire ce genre de choses, mais je voulais le numéro de Michel, donc j'étais parti à l'entretien. Et en me retrouvant à l'entretien avec quelqu'un d'autre, après avoir pris le numéro de Michel et certainement n'avoir jamais osé la rappeler, eh bien, je me suis retrouvé avec un gars à qui j'ai finalement avoué « Écoute, mec, sorry bro, I came for Michel's number, I didn't come for the job, and that for a good reason, I can't work, and that for a good reason, my visa doesn't allow me to work. » Je pouvais pas travailler, mon visa me permettait pas de prendre ce genre de job. Et là, le mec, ça l'a fait rigoler, on a un peu discuté, un peu sympathisé. Il m'a dit, écoute, je sais même pas pourquoi tu postules pour ce genre de job, parce que tu pourrais faire du mannequinat et ne plus avoir aucun problème. Sauf qu'on est à New York, je connais aucune agence, je connais personne. Écoute, elle est sympa ton idée, mais je sais pas trop comment je vais percer dans le mannequinat et devenir un top modèle dans ces conditions. Alors, il m'a donné quelques adresses, j'ai pas attendu, j'y suis allé dans l'après-midi. Dans la première, j'ai rencontré Gaspard de Request Model, un des plus grands agents de New York à l'époque. Et il m'a dit, écoute, tu ne vas nulle part ailleurs. À partir de maintenant, t'es avec nous. Et il m'a signé dans l'instant. Et là, je me suis dit, ouf, tous mes soucis sont finis. Bon, clairement, c'était pas tout de suite le cas parce que dans le mannequinat, on fait pas tout de suite de l'argent. Mais c'est vrai que c'était un grand pas. Alors le lendemain, je suis retourné au travail et je leur ai dit, écoutez, bon, vous me payez pas, on va faire un deal. Moi, je vais venir tous les jours au travail et puis quand j'aurai besoin d'aller à des castings ou à des shoots, eh ben, je m'absenterai du travail et puis comme ça, je travaille gratuitement pour vous et en échange, vous me laissez essayer de trouver une manière de survivre parce que sinon, ça ne va pas le faire, on ne va pas aller très loin. Alors ça, ce n'était pas un problème pour eux, ils l'ont accepté sans aucun problème et ma carrière de mannequin a commencé, sauf que ma carrière de mannequin, très très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je pensais que ça allait être. Mon agent, lui, il a vraiment cru en moi au début et il a voulu me présenter à des grands photographes, etc. Clairement, c'était pas ma vibe. Très, très vite, je me suis pris une ou deux propositions indécentes. Je me suis retrouvé dans des situations vraiment pas confortables et j'ai compris que ça allait pas être très vite comme ça que j'allais faire de l'argent. Peu importe, en tout cas, à cette époque-là, le mannequinat, ça m'a pas rapporté d'argent, mais ça m'a rapporté pas mal de rencontres. J'ai rencontré pas mal de gens avec qui j'ai pu travailler. Par exemple, dans la promotion de club à New York, c'est vraiment le premier truc qui m'a fait gagner un peu d'argent. Dans le catering, pour être serveur, host, etc. Et puis, sur les Fashion Week, j'arrivais à pas mal m'en sortir et à rencontrer pas mal de monde aussi. Et c'est là que j'ai rencontré le boss d'une petite boîte de relations presse à New York qui m'a dit que lui, il était chaud pour me prendre en stage après la fin de mon premier stage. Donc pour moi, ça, c'était hyper important. Et surtout, je commençais à connaître un petit peu. Donc direct, j'ai pu négocier avec lui des termes qui me permettaient de continuer à aller au casting du mannequinat, de travailler avec lui en étant payé assez pour pouvoir survivre, d'avoir aussi du temps pour aller au casting, pour aller à mes jobs de mannequin. Et du coup, j'ai commencé à préparer un petit peu le terrain pour la suite. Et parce que pendant ce temps-là, je commençais à me dire que je rencontrais pas mal d'opportunités dans cette ville et que je sais pas, ça ressemblait un petit peu à un jeu pour moi. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à me dire, je sais que je vais partir un jour, mais je crois pas que je vais partir d'ici sans avoir gagné le jeu. Et là, je suis dans la merde et pour moi, gagner le jeu, ça voudrait dire vivre confortablement dans cette ville où d'un côté, c'est pas facile, mais d'un autre côté, des opportunités, il y en a. À cette époque-là, je voyais aussi plein d'étudiants d'écoles de commerce qui venaient en stage pendant 6 mois et puis à la fin des 6 mois, ils repartaient. Ils parlaient même pas encore bien anglais, ils repartaient et après, ils fanfaronnaient en racontant partout qu'ils avaient vécu à New York. Pour moi, c'est pas ça, vivre à New York. Pour moi, vivre à New York, c'est avoir trouvé le confort à New York, ta zone de confort. Parce que clairement, le début, c'est du stress. Pour moi, ça a été l'époque des crises d'angoisse et d'à peu près tous les problèmes de santé liés au stress. Je pense que je me suis pris une claque de stress là-bas. En fait, la différence, c'est que là-bas, même à 5h du matin, en boîte, les mecs, ils te parlent toujours business et t'as l'impression que si à 22 ans, t'as pas déjà créé 3 boîtes, t'es un énorme loser. D'un autre côté, la promotion de club, ça m'a permis de gagner un peu d'argent, mais aussi de me faire pas mal de copains et clairement de trouver mon premier logement. Alors ouais, je dormais sur un canapé, je payais un tout petit peu de loyer et il y avait des souris qui se battaient pour les poubelles à peu près 5 mètres de moi. Mais au moins, j'avais un endroit où dormir. Voilà, ça donne un petit peu une idée des conditions dans lesquelles je commence à New York. Et puis, c'est vraiment du petit à petit. C'est-à-dire qu'en me débrouillant à droite à gauche, en prenant un peu tous les jobs, en disant oui à tout, en continuant en mode yes man, en travaillant bien aussi, en ayant vraiment les crocs pour d'enchaîner.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Chaque travail que je faisais, essayer d'être le meilleur et de récupérer les promotions et de récupérer les contrats, et ben finalement, je me retrouve à vivre de mieux en mieux. La première vraie chambre que je loue, c'est-à-dire en ne dormant pas en ne payant pas quelques centaines de dollars pour dormir dans un salon, c'est une cave à Brooklyn où pour payer le loyer, je récupère tous les canapés du quartier que je mets tout autour dans la cave et que je loue 180€ la semaine à des backpackers, des visiteurs, des jeunes qui visitent New York. Alors ça va vous paraître incroyable, 180€ la semaine pour dormir sur un canapé dans une cave à plusieurs. Sauf que la moindre auberge de jeunesse avec des lits superposés à New York aujourd'hui, t'es entre 80 et 100 balles la nuit. Donc finalement, c'était pas cher et moi, ça me permettait de gagner plus que mon loyer. Petit à petit, comme ça, à la débrouille, en mode gros clochard, et je découvre avec ce mode de vie que finalement, j'ai pas peur. Et tu connais, on te met cette idée dans la tête quand t'es jeune que la menace d'être un jour sans abri et de te retrouver à la rue te guette et qu'il faut bien travailler, il faut bien bosser parce que sinon ça peut arriver. Et ben moi, à cette époque où je me retrouve parfois même à dormir dans Central Park, et ben je réalise que ok, même le jour où je touche le fond, je peux survivre. Alors c'est une situation qui est quand même plus facile à vivre que quand on est complètement désespéré parce que je sais que si jamais vraiment ça va pas, et ben je peux toujours quitter les États-Unis et rentrer et puis revenir à une vie un petit peu plus conventionnelle. Mais pour moi, il n'en est pas question. J'adore ce game. Aux États-Unis, on appelle ça le hustle. Ça veut dire, tu pars de zéro et tu te débrouilles. Peu importe si c'est complètement 100% légal, tu te débrouilles. Il y avait un Allemand, pendant un moment, qui dormait sur un des canapés que j'avais, et dans le canapé, il y avait tout le cash de la location. C'était le vrai hustle à l'américaine. Et comme ça, petit à petit, je me fais des amis, je me fais des relations de taf. Je réussis à récupérer des apparts pas chers ici et là. Je réussis à récupérer des bons plans comme du dog sitting où je pouvais vivre dans un appart tant que je m'occupais du chien. Et petit à petit, je monte. Mon niveau de vie s'améliore, j'emmagasine quelques économies, je me fais quelques potes, quelques gars sûrs. Et pendant ce temps-là, en plus de ça, j'acquiers une expérience pour mon boulot dans les relations presse de la mode. Clairement, tout va de mieux en mieux. Et comme tout devient un petit peu plus confortable, et ben je peux me poser un petit peu pour réfléchir à comment essayer d'aller chercher plus d'argent là où il y en a. Et à cette époque-là, le mannequinat, il cartonne pas tellement, parce qu'on est un peu dans l'optique du début d'essayer de faire de moi une star, et clairement, j'y crois pas trop. Alors, je réfléchis à une autre technique pour rendre le mannequinat plus lucratif. Et là, je vais avoir une idée dont je suis pas peu fier. Je me dis à ce moment-là, ok, il y a les jobs d'e-commerce, de catalogue, que personne ne veut, en tout cas que personne ne veut prendre régulièrement, parce que si on voit trop ta tête dans ces trucs-là, et ben derrière, on se dit, ce mec-là, il est en galère et donc, on ne va pas le prendre. En fait, bizarrement, dans la mode, il faut trouver la nouvelle tête, le nouveau mec à succès, mais tout le monde est influencé par tout le monde. Donc, si on voit ta gueule sur des sites internet de grands magasins, on se dit que c'est pas bien de te prendre pour la campagne du parfum Dior. Et c'est justifiable. Donc, ces jobs-là, personne ne les veut. Les agences ne les veulent pas pour leurs mannequins. Les mannequins ont la flemme d'y aller. Mais ces jobs-là, ils sont payés entre 1000 et 4000 balles la journée. Donc ça représente pas tellement après impôt quand t'en fais un par mois discretos pour pas que ça se voit et puis pour te permettre de payer ton loyer. Mais si jamais tu réussissais à trouver une manière d'en faire 3 par semaine. Alors je m'intéresse un petit peu aux gens qui travaillent là-dedans et je vois que la différence entre les grands photographes et les photographes qui travaillent là, c'est que les photographes qui travaillent là, eux, ils sont hyper professionnels et ils ont qu'un rêve, c'est de rentrer dans ce monde merveilleux, plein de paillettes et plein de glamour de la mode. Et moi, je travaille en relation presse. C'est-à-dire que je fais l'entrée des soirées de magazines, je fais l'entrée des défilés et en plus de ça, je suis promoteur la nuit en boîte, donc je suis aux tables où toutes les mannequins se retrouvent. Donc est-ce que j'ai pas un petit truc à faire valoir auprès de ces photographes très professionnels, jeunes, et de ces directeurs artistiques qui commencent dans le métier? Eh ben si. Et du coup, à ce moment-là, je change d'agence. Et au moment de signer, je vais les voir et je leur dis « Écoutez, pour la stratégie, vous allez me donner un petit moment, vous allez me laisser faire et je vais tester un truc. Je vais travailler différemment. » Ils font « Ok, je pense qu'ils y croient pas trop à l'époque. » Et je commence à me focus sur ce genre de petit job de catalogue, d'e-commerce. Et je rencontre les directeurs artistiques, les photographes, les stylistes. Et j'essaye de rendre leur vie meilleure, d'une part. D'une part en faisant pas la gueule parce que j'arrive sur un job que j'estime pas, d'autre part en essayant d'être efficace et de faire passer à tout le monde une bonne journée. Mais en plus de ça, en essayant de faire valoir mes avantages, c'est-à-dire mes entrées dans les soirées de la mode, dans les défilés, etc. Et du coup, je fais rentrer ces photographes, ces stylistes, quand je peux, dans des endroits stylés. Et l'effet que ça a, c'est que finalement, je fidélise mon client comme une entreprise. Je me retrouve à travailler 3 à 4 fois par semaine de manière hyper régulière, hyper sûre et à faire entre 1000 et 4000 balles par jour. Donc clairement, ma vie s'améliore tout d'un coup de manière drastique. Alors clairement, à ce moment-là, je sais que je serai jamais un top modèle et que je ferai jamais les campagnes de parfum parce que ma tête, elle est sur à peu près tous les sites d'e-commerce. Mais je gagne très très bien ma vie, je mets de l'argent de côté. Et franchement, c'est tout ce que je veux parce que j'ai jamais prévu de faire une carrière dans le mannequinat. Pour moi, l'idée, c'est de mettre de l'argent de côté pour des projets futurs. Et du coup, tout s'améliore très vite. En plus de ça, l'importance d'Instagram arrive dans la mode et dans le mannequinat. Je flaire un petit peu le filon et j'essaye de gagner quelques abonnés, ce qui me fait récupérer même en fin de compte des grosses campagnes comme Coca-Cola. Campagne Coca-Cola plutôt stratégique puisque ça fait aujourd'hui 8 ans qu'elle dure et on la retrouve dans à peu près toute l'Europe. Bon. En fin de compte, ma situation, elle est impeccable. Je gagne énormément d'argent avec le mannequinat. Mais en plus de ça, je garde des petits jobs sur le côté pour pas oublier ce que c'est que de mettre les mains dans le cambouis. Et quand je dis ça, je le dis au sens propre parce que je travaille même dans un garage de voitures. En tout cas, ma vie à New York à cette époque, elle commence à aller très bien. Et malgré que je me suis fait plein de potes et que je vis vraiment bien et que j'adore cette vie, eh ben j'ai l'impression d'avoir un petit peu gagné le jeu et clairement, j'ai pas pour ambition de passer toute ma vie aussi loin de ma famille. Donc je commence à me dire, est-ce que je commencerais pas à m'embêter un petit peu et est-ce qu'il faudrait pas essayer de changer ? Et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je me dis, je sens qu'il y a une opportunité qui va se présenter très bientôt. Les amis, je vous le jure, 2 semaines plus tard, je suis à Los Angeles pour un job de mannequinat et je reçois un message de la prod de Secret Story qui me propose de faire partie de cette émission. Alors, Secret Story, je connais un peu le principe, mais ça fait 8 ans que je vis aux États-Unis, donc clairement, je regarde pas. Et puis surtout, il est hors de question que j'aille en France pour faire un casting. À la limite, si tu me dis « Ouais, c'est bon, t'es pris », là, j'y vais. Mais juste pour un casting, je rentre pas. C'est ce que je leur dis et ils me disent « Où t'es ? Je suis à LA. Écoute, Bastos, c'est incroyable, mais aujourd'hui même, à Los Angeles, eh ben, y a la directrice de casting qui est en vacances avec sa famille. Je rencontre la directrice de casting, Aurore Castaldi à l'époque, avec qui le courant passe, c'est incroyable, on s'entend hyper bien, à tel point que je reste faire la fête et jouer au poker avec eux ce soir-là et qu'on passe une super soirée. À partir de là, clairement, pour Aurore, c'est sûr, je fais partie de Secret Story. Et la suite, vous la connaissez, elle est là, mon opportunité de changer de vie. Moi, j'ai pas de préjugés négatifs sur la télé-réalité et je dirais même que la télé-réalité, ça m'intéresse. C'est une forme de divertissement qui a conquis le monde, qui a conquis à peu près toutes les chaînes de tous les pays. Et du coup, aller voir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur, eh ben, je trouve ça assez intéressant. À ce moment-là, je me dis, je vais faire Secret et puis on verra ce qui se passe. Mais si jamais j'ai plein d'abonnés et qu'il n'y a rien pour moi en France, je peux toujours revenir aux États-Unis. Ils ne sauront pas d'où les abonnés viennent et je récupérerai plein de jobs de mannequinat. Je fais Secret Story, je sors aux portes de la finale. Et honnêtement, je trouve la télé-réalité très difficile, émotionnellement très éprouvant. Et après un deuxième essai dans Les Apprentis Aventuriers, je décide de quitter ce monde et de ne pas revenir en arrière et repartir au mannequinat, mais de devenir influenceur mode. À ce moment-là, je fais l'état de mes points forts, de mes passions, de mes centres d'intérêt. Je me dis que c'est un peu l'opportunité pour moi de rassembler tout ça et de faire de mes centres d'intérêt et de mes passions un travail. C'est la première fois que je peux réunir l'outdoor, les sports de glisse, les sports extrêmes et la mode dans un même travail et peut-être avoir l'espoir de gagner de l'argent. Alors clairement, pour un gars de télé-réalité, c'est un peu difficile de se lancer. Personne n'a fait jusque-là et ce à quoi on a droit, c'est Bebryance, Fitti et je sais plus quelle terrible marque de bijoux. Mais moi, je me dis toujours que c'est possible. De la même manière que dans le mannequinat, j'avais décidé de travailler à ma manière, je me dis que c'est possible de le faire dans l'influence, même en ayant un passif de télé-réalité. Alors, je fais tout simplement une grosse séance de shopping en achetant les marques que je veux représenter. Alors, je commence tout simplement par une grosse séance de shopping en achetant les marques que je veux représenter. Je contacte quelques photographes à Paris. On fait quelques petits shootings. Je poste mes outfits en faisant de la pub gratuite à toutes les marques que je veux représenter. Et je me dis qu'il n'y a pas de meilleur moyen non seulement d'attirer leur attention, mais d'attirer aussi celle de leurs concurrents. Et très très vite, je commence à recevoir des appels. Alors, c'est pas tout de suite ces grandes marques-là, mais ça commence par des événements d'influenceurs et des événements de sport extrême. Quel meilleur moyen de me construire une crédibilité que d'une part rencontrer et m'afficher avec des vrais influenceurs, des vrais créateurs de contenu étrangers à la télé-réalité et tous ces domaines un petit peu méprisés, mais aussi de rencontrer des professionnels de sport extrême, d'outdoor, etc. Une fois que j'ai construit cette crédibilité, eh bien là, arrivent les marques et je recommence à gagner très bien ma vie de nouveau après m'être serré la ceinture pendant quelques mois. Et une fois de plus, mon entêtement à faire les choses un petit peu différemment paye et je me retrouve de nouveau sorti d'affaires. Mais le problème, c'est que voilà, comme c'est un domaine niche, ça ne passionne pas l'audience et il est très important de grossir sur les réseaux sociaux. Soit on grandit, soit on meurt et mes likes baissent. Et je me dis, merde, ça ne durera pas éternellement. Alors à ce moment-là, je me dis, bah, je vais commencer à faire des blagues. Et moi, j'ai grandi en faisant des blagues moqueuses. Et je décide de me moquer de mes anciens collègues de télé-réalité ou en tout cas de la manière dont ils font des placements de produits. Chose qui, à l'époque, vexe énormément Magali Berda, qui réagit de manière un petit peu démesurée et je me retrouve sous le feu des projecteurs. Je suis le grand méchant qui a clashé Magali Berda, le premier à m'être moqué de cette manière de faire des placements de produits. Alors s'ensuit, bien sûr, mise en demeure, menace d'attaque en justice, menace un petit peu de tout le monde, etc. Moi, je voulais juste faire une blague et je me suis retrouvé un petit peu comme le Booba d'aujourd'hui. Mais ça m'empêchait pas de bien rigoler. Le problème, c'est que ça attire pas mal de haine et que la haine, ça rend pas heureux. Et que moi, j'ai besoin de sérénité, j'ai besoin de bonheur, j'ai besoin de gentillesse. Et du coup, j'ai décidé que j'allais pas continuer dans cette direction, mais que j'allais refaire un petit peu plus de good vibes. Et c'est là qu'avec Darko, on a eu l'idée de faire les cap ou pas cap, les cap ou pas cap qui ont cartonné. Et comme j'ai vu qu'avec Darko, on avait un bon duo, je me suis dit qu'écouter ses conseils, ça pouvait être assez stratégique. Il m'a conseillé de me lancer sur YouTube, il m'a montré quelques clés, et c'est comme ça que je suis devenu YouTuber. Sur YouTube, je voulais faire, une fois n'est pas coutume, un truc un peu différent. Certains se rappellent de Bastos fait des bulles. Alors Bastos fait des bulles, l'idée, c'était de prendre un t-shirt gratuit, de le peindre, le customiser, le vendre aux enchères et avec l'argent des enchères, essayer d'acheter un truc plus gros, plus cher, le recustomiser et ainsi de suite. Jusqu'à à la fin, pourquoi pas avoir un avion customisé Bastos fait des bulles. Dans l'influence, j'avais rencontré quelques autres youtubeurs qui, outre l'aide de Darko, m'ont apporté la leur. Très très vite, ma chaîne YouTube a décollé. Le problème, c'était mon concept qui a très vite saturé, vous pouvez l'imaginer. Clairement, même si en parallèle, je montrais comment un artiste faisait grimper sa cote, en faisant des collabs avec d'autres artistes, des galeries, etc., vous pouvez imaginer qu'à un moment, ça sature. C'est-à-dire que Bastos n'étant pas Andy Warhol, il y a une limite à l'argent que je suis prêt à dépenser pour une de ses œuvres. Donc, je me suis calmé un petit peu sur YouTube. Je faisais une vidéo une fois de temps en temps, quand je voulais, quand j'avais envie. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai décidé de m'y mettre vraiment sérieusement. Et j'ai relancé ma chaîne YouTube avec cette vidéo qui est devenue quand même un classique aujourd'hui, la vidéo du défi d'abstinence des 40 jours 40 nuits. À partir de là, je faisais deux vidéos par semaine. On faisait plein de trucs avec Darko, ça cartonnait, c'était très bien. Et puis 2 ans plus tard, c'était devenu un peu une routine, un peu facile. Et je me suis dit, c'est quoi le truc que j'ai raté jusqu'à maintenant? C'est quoi le truc qui me laisse un goût amer? Et ma réponse, c'était la télé-réalité. Et je me suis dit, est-ce que je me donnerais pas une seconde chance? C'est là que je suis reparti dans Les Princes et que j'ai trouvé des concepts de vidéos YouTube à faire en parallèle de la télé-réalité, ce qui a aussi très bien marché et ce à quoi je dois aujourd'hui une belle chaîne YouTube à 1 million d'abonnés. Probablement la chose dont je suis le plus fier de ma vie. Aujourd'hui, je me sens un petit peu comme juste avant de refaire de la télé-réalité. Ok, ça y est, ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai besoin d'un truc différent, ce qui a expliqué la vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube où je cherche un travail. Aujourd'hui, je suis sur une piste très importante, quelque chose qui me tient énormément à cœur. Peut-être que certains l'ont remarqué dans ma personnalité, mais j'aime bien partager mes expériences, j'aime bien partager ce que je sais, débattre, discuter, et c'est pourquoi aujourd'hui, je me tourne vers l'enseignement. Alors Bastos prof, dit comme ça, ça paraît un petit peu surprenant, je vous le concède, mais si je vous le décris, vous allez comprendre. En école de commerce, en école de communication, tout le monde veut apprendre la communication digitale. C'est un truc qui, à mon époque, à Kedge, était complètement absent, c'est-à-dire qu'on ne m'en a jamais parlé, ce que je trouve très regrettable, parce que si je vais dans une école de commerce, c'est pour apprendre ce qui se passe demain, pas ce qui se passe hier. Et aujourd'hui, la communication digitale, c'est très important. Énormément de jeunes étudiants veulent prendre cette direction. Il y a énormément de débouchés, il y a énormément de choses à apprendre. Et rares sont ceux qui travaillent aussi près du cœur de ce business que moi, et ça me ferait plaisir de l'enseigner aujourd'hui. Vous imaginez bien que ça ferait un vrai décalage en termes de revenus, mais comme vous pouvez le voir dans mon parcours, j'ai besoin de passion, j'ai besoin de partage, j'ai besoin de nouvelles expériences, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, et je pense que c'est ce qui peut me réaliser aujourd'hui. Et figurez-vous que juste après la sortie de cette vidéo, j'ai eu plusieurs propositions. On est en ce moment en train de travailler sur la manière dont ça va se passer, sur des deals potentiels. Donc, je suis très excité à l'idée de commencer ça. Ça ne veut pas dire que j'arrête ma chaîne YouTube, ça ne veut pas dire que j'arrête de faire des podcasts, mais c'est une nouvelle activité pour moi qui pourrait déboucher sur bien des choses dont je ne veux pas parler pour le moment, mais vers lesquelles j'aimerais beaucoup m'orienter. Voilà les amis, on en est là aujourd'hui, c'est mon parcours de ces 34 dernières années. C'est un parcours dont je suis hyper fier, je suis très content d'en être où j'en suis aujourd'hui à 35 ans. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies et c'est pour ça que je pense que j'ai pas mal de choses à partager dans le cadre de ce podcast Bastos Motivation. J'ai vraiment vraiment hâte de recevoir mon premier invité. Quand vous allez savoir qui c'est, vous allez trouver ça hyper logique. J'espère que ce premier podcast introductif qui fait l'état un petit peu de mon parcours vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. J'espère que je vais avoir l'honneur d'accompagner vos moments dans les bouchons, dans les métros et d'ailleurs où vous voulez avec ce podcast. Je vous fais des gros bisous à tous. À très bientôt sur Bastos Motivation. Ciao, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.
Oh, ce qu'on va se mettre.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.